Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between.
Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien.
Vous écoutez l'épisode 42 du podcast Les enfants vont bien. On a tellement parlé du choix du donneur. C'est une question qui revient dans chacun de mes épisodes. Et pour cause, c'est un vrai enjeu dans nos parcours. Savoir quoi privilégier, statuer autour de son anonymat, envisager le rôle qu'il pourrait jouer au sein de la famille. Souvent, les critères physiques sont les premiers à rentrer en ligne de compte. Ils nous servent même de premier filtre, tant l'offre, oui je sais, le mot est difficile à lire ou à entendre associé à nos parcours, est large. Au sein de la famille de Maud et Clément, j'ai été immédiatement interpellée par la beauté de leur petit Solal. Je n'ai pas spontanément compris que Solal avait un donneur d'origine différente de ses deux parents. Et puis, il y a 2 ans, lorsque j'ai discuté avec Maud de ce premier enregistrement, j'ai compris à son discours qu'effectivement, cela avait été un choix conscient et mûrement réfléchi d'intégrer un donneur ne ressemblant à aucun de ses deux parents aux origines de Solal. Et quand on les écoute, ce choix est d'une logique implacable. Il leur ressemble parce que leur donneur est aligné avec leur conception de leur histoire, et c'est bien cela qui est le plus important. Je vous laisse découvrir leur histoire et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Maud, bonjour Clément.
Bonjour.
Je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible pour cet enregistrement et surtout de m'avoir dit oui, parce que je sais que c'est pas évident, surtout... Parce que vous avez un contexte un petit peu particulier et que je sais que c'est pas simple des fois d'en parler. Pour commencer, je pense que beaucoup vous connaissent, mais pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Alors, on est Maud, c'est mon épouse, qui a 33 ans, et Clément, 35 ans. J'ai précisé que je suis un homme transgenre, que je suis en transition depuis 6 mois, enfin en transition médicale en tout cas, depuis 6 mois. Et on a un petit garçon qui aura 3 ans au mois d'avril, qui s'appelle Solal.
Et donc vous êtes le comte, le bocal de Solal.
Exactement.
Voilà.
Donc je le repréciserai évidemment en fin d'enregistrement et sur la publication Instagram pour qu'on puisse vous retrouver. Donc aujourd'hui, donc c'est ce qu'on se disait juste avant l'enregistrement, on va très certainement aborder 2 thématiques différentes. Et pour commencer, on va aborder votre accès à la parentalité. Est-ce que vous pouvez me dire, me raconter comment vous vous êtes rencontrés ?
Oui, alors on s'est rencontrés en 2007, donc hier, sur un site de rencontre pour les personnes LGBTQIA+, qui n'existe plus depuis.
Ben non,
voilà. Voilà, on s'est rencontrés sur un site.
J'allais te dire que je ne savais même pas que ça avait existé en 2007. Autant je te dirais maintenant, ça paraît évident,
ouais,
autant en 2007...
Bah, il devait y en avoir...
Il y en avait 2, je crois.
Oui, il y en avait 1 ou 2. Voilà.
Il y avait 2 sites
Ah mais attends, il y avait un forum. Je me souviens qu'il y avait un forum. En tout cas, quand moi j'étais plus, moi je suis plus vieille que vous. Hein. Donc, si si quand même. Et il y avait un forum de rencontres. Je sais plus comment ça s'appelait, mais bon, bref, passons.
Mais là, c'était quand même un site hein, qui était site, bien fait. Il y avait des filtres et tout. On pouvait déjà trier.
Petite fiche avec jolies photos. Voilà. Tout ça, quoi.
On s'est flashé même. On s'est envoyé des flashs. C'était le Tinder de l'époque.
C'était le Tinder de l'époque. Et alors, ça a pris facilement?
Ben, ouais. Oui, hein. On a discuté pendant un mois à peu près. Et puis après, on s'est rencontrés. Et ben, depuis, voilà, c'était en août 2007. Et puis, on ne s'est plus quittés depuis.
Et ça a été une évidence.
Ouais. Ouais, ouais, franchement.
Excellent. Excellent. Et est-ce que pour vous, on va peut-être dire même avant votre rencontre, c'était évident que vous accéderiez à un moment donné à la parentalité ou c'est venu avec le temps?
Alors, pour moi, Maud, oui. Enfin, je m'étais pas... Enfin, j'avais pas de schéma particulier en tête, mais ouais, je me voyais bien avec un enfant plus tard.
Moi, pas du tout. Non, c'était pas du tout un truc qui m'attirait. J'étais pas super à l'aise avec les enfants. Mmh. Et pour moi, ouais, c'était pas pour moi. Donc c'est venu avec la rencontre de Maud, avec les années passant.
Ouais,
et,
c'est ça.
Tu lui en as parlé tout de suite, Maud?
Non, 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 pas du tout.
On était jeunes, hein, quand même. On avait, t'avais quel âge, toi?
18.
18, c'est moi 20.
Ah oui, vous étiez tout jeune.
On était encore en études. Moi, je passais mon bac, c'est ça, hein? Enfin, où j'étais dans la dernière année. Je sais plus. En tout cas, voilà, c'était les années, la dernière année de bac, je crois. Toi, t'étais en BTS.
Toi, tu rentrais en terminale.
Voilà, je rentrais en terminale. Donc, on n'était pas du tout là-dedans. Quand on s'est rencontrés, c'était une autre vie même.
Oui, d'où oui, peut-être bien. Aussi le non-désir de ma part, parce que j'étais pas du tout là-dedans. Quoi.
Oui, et puis à l'époque, on parlait très peu PMA.
Parentalité.
Voilà, mais je veux dire dans la société.
Oui, non, mais c'est ça. Il faut se rappeler que
pour nos
2007,
couples, pour nos schémas de couple.
On n'avait pas de représentation de couple de femmes avec enfants, enfin...
Ouais, complètement. C'est vrai que c'était encore assez flou. Et pourtant, en 2007, c'était la campagne de Ségolène Royal. Et c'était écrit dans sa campagne. C'était un des projets.
Oui, mais bon. Entre les projets et ce qui se réalise, on a bien vu que...
Voilà. On avance. Un peu plus lentement que prévu, mais on avance.
Il faut l'admettre.
On est quand même... T'imagines, depuis 2007, le chemin parcouru?
Oh là
avec
là,
le recul. C'est ouf, hein?
Ouais.
C'est fou.
Alors que c'était hier. Hein.
Oui, alors que c'était hier, 2007.
Non, mais c'est clair, c'est clair. Et alors, comment c'est arrivé dans votre couple? À quel moment vous avez commencé à en parler et comment vous avez envisagé cette parentalité?
Bah, du coup, après quelques années, on s'est installés. Enfin, on a tous les deux trouvé du travail, enfin, fini nos études, trouvé du travail, trouvé un appartement. Et là, du coup, on s'est retrouvés un petit peu dans un... Comment dire, on était dans un schéma confortable pour pouvoir penser plus posément à nous, à la suite. Et je me souviens plus très très bien comment ça nous est venu, comment un jour on a commencé à aborder le sujet. Mais en tout cas, c'était en 2013 et c'est allé assez vite après. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a déclenché les conversations sur potentiellement avoir un enfant, etc. Là, on a commencé à faire des recherches sur comment pouvoir accéder à la parentalité. Et après, tout s'est mis en place assez rapidement.
Et du coup, toi, Clément, c'est venu spontanément? Enfin, c'est quelque chose qui t'est venu dans la lignée de ta relation avec Maud ou il a quand même fallu que tu fasses un travail
Je suis pas sûr d'avoir analysé complètement les choses. C'est-à-dire que je pense que c'est toi qui as abordé le sujet. Et puis, je me suis dit, bah, pourquoi pas, en fait.
Oui, voilà, c'était spontané, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis le chemin s'est fait tout seul finalement. Oui, je pense qu'on en a discuté, que tu as dû me dire. Mais c'est vrai.
Ça a dû être assez fluide parce que franchement, oui. On n'a pas de souvenir précis d'un déclic particulier. Donc,
non, c'est vrai.
Ça a dû se faire assez. Genre, on était posés, on avait l'appart, on avait la famille, on avait les amis, on avait tout autour de nous. Et on s'est dit, pourquoi pas agrandir cette famille qu'on est déjà, mais à deux, et pourquoi pas ajouter un troisième membre.
Ouais, c'était la suite logique, en fait.
Voilà.
Ouais, c'est ça.
Il n'y a pas eu de débat, en tout cas. Enfin, moi, je n'ai pas eu à convaincre Clem ou quoi. Ça s'est vraiment fait à deux. cette.
D'accord. Et du coup, vous en êtes arrivé où dans vos réflexions autour de cet accès à la parentalité? Qu'est-ce que vous avez fait comme choix?
Bah, on connaissait la PMA à l'étranger. Mm-hmm. Assez rapidement, on s'est dit que on était moyennement emballé. Mm-hmm. Par le côté médical surtout. Hein. Moi, j'ai ce souvenir-là.
Il y avait le côté médical, il y avait la logistique aussi.
La logistique, parce qu'à l'époque, ouais, j'avais un boulot qui me permettait pas de me libérer facilement. Et c'était un peu source de stress pour moi de me dire qu'il faut partir du jour au lendemain. Et j'avais pas du tout la possibilité de le faire. Mm-hmm. Il y avait ça, hein, c'était...
Oui, voilà. Donc du coup, nous, on est partis sur la méthode dite artisanale. Mm-hmm. On se dit que c'était pas mal de trouver nous-mêmes un donneur, voilà, avec qui on pouvait échanger en amont, quelqu'un qui habiterait, enfin pas trop loin, et puis avec qui du coup ça serait facile. Nous, en fait, on gérerait notre propre planning en fonction de nos tests, des tests d'ovulation, de la disponibilité de la personne qu'on rencontrerait, et voilà, ça serait fait comme ça.
Il y avait un point important aussi dans ce choix, c'était de se dire ben on a des réponses et on a une histoire à raconter au futur enfant. Mm-hmm. À se dire ben on a fait une rencontre, on a une histoire, on a rencontré cette personne et puis voilà ce qu'on peut en dire.
Oui.
Je pense que
c'était
important aussi de pouvoir avoir des éléments de réponse sur les origines.
Oui, ça nous rassurait donneur, aussi de pouvoir...
Ouais, ouais, je comprends complètement.
Ouais.
C'est vrai que moi, avec le recul, c'est quelque chose qui me manque un peu. Alors, c'est propre à chacun, attention.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que moi, avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être aimé en savoir un peu plus sur notre donneur, sachant que nous, on ne sait absolument rien de rien de rien de rien, même pas son groupe sanguin, on ne sait rien. C'est vraiment... Et je me dis... J'aurais aimé, en tant que parent en plus. Enfin, je suis même pas l'enfant pour le coup. Donc, en tant que parent, je me dis, ah, j'aurais quand même aimé en savoir un peu plus. Bon, c'est comme ça. Hein.
Oui, bon bah. Après, c'est vrai que c'est vraiment propre à chacun. Il y en a aussi qui préfèrent ne rien savoir du tout sur la personne qui fait ce don. Et voilà, c'est le fait que ce soit complètement flou. Il y a des personnes pour qui c'est rassurant en fait.
Ouais. Ah, oui, mais et puis c'était ça en fait. Nous, quand on a lancer ça, c'était une évidence et ça nous rassurait. C'est juste le cheminement, en fait, au fur et à mesure du temps où on se dit, ah, et peut-être que d'autres font le cheminement inverse.
Aussi, ouais. Oui. Ça dépend des rencontres qu'on peut faire aussi. Hein. Voilà, la méthode artisanale, c'est aussi des risques, voilà, savoir sur qui on va tomber, comment ça va se passer. Ça, on en avait conscience aussi. Hein. Le fait de connaître le donneur, c'est rassurant, mais c'est aussi risqué. On ne sait pas ce qui peut se passer après, ce qu'il peut demander, est-ce qu'il va vouloir soudainement reconnaître cet enfant qui est de lui biologiquement. Enfin, voilà, donc... Faut
et surtout en 2013, où on ne savait pas où on allait vraiment.
Exactement, ouais. Bah complètement. Hein, c'était...
Ouais.
Mais bon, on a fait celui-là quand même.
C'était encore autre chose. Bon, bref. Voilà, vous avez fait ce choix. Et vous avez trouvé facilement un donneur?
Oui, étonnamment. Parce que je dis étonnamment parce que c'est fait en deux temps. Mais en 2000, fin 2013, quand on a cherché un donneur, on a trouvé un donneur assez facilement. Ouais, c'est une des premières personnes avec qui on a échangé. Et le feeling est bien passé en fait. Ça s'est très très bien passé. Et du coup, bah, on s'est dit on va le rencontrer. On va voir comment ça se passe avec cette personne. Et oui, ça, on l'a rencontré assez vite.
D'accord.
Voilà.
Donc du coup, bon, ça confortait en général quand les chemins se croisent bien. Ça conforte que c'est le bon choix.
Oui, bah.
Parce que dès la première rencontre, il y a eu un feeling. On a bien discuté, on a bien rigolé. Enfin, c'était important aussi qu'il y ait quand même ce contact.
Oui, qu'on soit positif, à l'aise, parce que c'est quand même après quelque chose, une démarche tellement spéciale, tellement intime que oui, il fallait quand même que ça se passe bien en amont, que voilà, qu'on soit à l'aise lui et nous.
Bien sûr.
Donc là-dessus, on commence quand même plusieurs essais. On a fait le tour de France, hein, quand même.
Oui, parce qu'il n'était pas tout à fait à côté. Il était en France, mais il n'était pas tout à fait à côté.
Ah oui, d'accord, ok.
Il était à Lyon, c'est ça?
Oui, on est allé plusieurs fois à Lyon.
Pour le bois, pour faire les essais en fonction des disponibilités.
D'accord.
De chacun, parce que du coup, on a laissé sauter des cycles, etc. Enfin, on a laissé passer des cycles où on ne pouvait pas se déplacer. Enfin, voilà, c'était aussi une logistique.
Et du coup, je ne vous ai pas demandé, mais donc pour le choix du donneur, ok, mais par contre, on n'a pas parlé de qui portait l'enfant.
Oui, alors au début, on est parti sur l'idée que ça serait Clément, puisque ayant 2 ans de plus, on s'est dit, bon bah voilà. Enfin, en fait, on avait tous les deux, on n'était pas animés par un désir de grossesse particulier. On a fait en fonction de l'âge et Clem ayant 2 ans de plus, on s'est dit que c'était Clem qui porterait cet enfant. Donc on est parti sur ça.
Ok.
Voilà, donc ça s'est fait comme ça.
Et donc là, on est en...
On a fait 2 essais. Là, on est en 2013.
Fin 2013.
On a fait 2 essais sur moi. Et à un moment donné, je dis, bon, en fait, finalement, je me reposais la question, est-ce que j'ai vraiment ce désir de porter l'enfant, tout ça. Du coup, en fait, j'étais plutôt passé le relais. Mm-hmm. En me disant, bah, ouais, je sentais plus l'envie. Enfin, c'est mon avis personnel, peut-être pas, mais je sentais plus l'envie de porter que moi. Donc, finalement, on a continué les essais sur toi.
Ouais.
D'accord,
oui,
ok.
Oui, après 2 essais.
Ok, et après 2 essais, ok.
Voilà, donc du coup, en fait, on le rencontrait, donc il était de la région lyonnaise, donc on l'avait rencontré, ça s'était très bien passé, on fait 2 essais avec Clem, ça ne donne rien, on mm-hmm. le revoit, donc là, on arrive déjà, on est facile en 2014, parce qu'il y a des mois où nous, on ne pouvait pas y aller, parce que justement, le travail de Clem, voilà, et c'était difficile de partir sur Lyon à ce moment-là, des mois où lui il pouvait pas, et puis moi des mois où je n'ovulais pas, donc je ne comprenais pas pourquoi.
Ah mince.
Vous voyez qu'il y avait des erreurs avec les tests, naïve que j'étais.
D'accord.
Et donc voilà, donc on fait des essais en 2014, quelques-uns. Franchement, on ne saura pas te dire combien en tout on a réalisé d'essais. Je pense qu'au bout de 5-6, on a commencé à arrêter de compter. Voilà, donc on fait quelques essais en 2014. Et début 2015, on fait un essai qui s'avère positif. Voilà.
Donc, d'accord.
Là, on s'est dit, ça y est.
Ouais, et du coup, par contre, et je ne t'ai pas posé la question, mais vous n'étiez pas suivi du tout au niveau gynéco ?
Non, alors en plus, justement, à ce moment-là, on avait peu de réseaux et peu de réseaux médicaux. Enfin, on n'avait pas, on n'était pas très bien entourés. On avait un gynéco, franchement, on l'a voyé une fois.
Ah, moi, j'avais vu qu'une fois une gynéco, ça s'était très mal passé.
Oui, et en plus, on avait essayé de voir une gynéco qui était, on va dire, queer friendly.
Bah, soi-disant, parce que j'étais très mal reçue et ça s'était pas bien passé. Donc, moi, j'ai fait.
Ah, oui, d'accord.
Une seule visite. Et moi, pareil, j'avais vu un autre gynéco, ça s'était bien passé, mais sans plus. Enfin, c'était vraiment pour le, si tu veux, le contrôle médical habituel, pas pour lui parler de notre projet. Enfin, à terme, si ça s'était bien passé, si, c'était pour parler du projet, etc. Mais là, du coup, ça nous a coupé toute envie. On faisait vraiment ça de notre côté. Petit test bandelette d'ovulation et on y va ou on n'y va pas, quoi. Mais c'était en
D'accord,
tout.
Ok. Ok, à ce moment-là. Donc, début 2015, un positif. Après, 10 essais, c'est ça, au total ?
Oh, bah, franchement, je saurais pas, on ne saurait pas te dire combien...
Ouais, tu sais, ouais, mais ça...
Une bonne dizaine, c'est certain.
Ouais,
une bonne dizaine, quand même.
En un an ? Non, peut-être moins, en un an. Non, on a commencé fin 2013. Oui, et début 2015, on a eu la grossesse. Donc, ça fait pas 2 ans.
Non.
Non, oui, peut-être 6 essais. Je ne sais pas trop combien de fois on l'a vu à ce moment-là. Je ne sais pas. Ouais, peut-être 5-6 essais.
5-6, ouais.
Avec les coupures, les dispos de chacun et les vacances. Donc oui, ça doit faire ça. 5-6 essais et un positif. Donc super. Ça y est, c'est fait.
Ça y est. Et ça n'a pas été trop dur, l'attente ? Vous étiez... Enfin, l'attente du positif, hein, vous étiez vraiment OK avec le fait que ça allait prendre du temps, très certainement ?
Ben, en fait, on pensait que ça irait beaucoup plus vite. Enfin, on était un peu naïfs sur le sujet, puisque pas accompagnés, ni par des connaissances qui étaient passées par là, ni par... parce que tous nos amis, à ce moment-là, on a tous, 24 ans. Enfin, j'ai plus trop les âges précis en tête, mais 25 ans, je sais pas. En tout cas, nos amis, à ce moment-là, ils ont pas ces projets-là, et puis on n'est pas entourés médicalement. On en parle très peu à nos familles qui sont très très proches de nous, mais voilà, on a vraiment envie de garder ça pour nous. Donc, on se rend pas compte que ça peut prendre du temps. Donc, on fait les essais. C'est pour ça qu'à un moment, on arrête, on est un peu robotisé. On arrête de compter. Voilà, hop, c'est positif, tu es dispo. Ok, nous aussi, on descend. Et puis voilà, ça se fait comme ça chaque mois ou quand on peut. Mm-hmm. Et oui, ça commence à... Oui, on se dit que ça prend du temps, mais quand le positif arrive...
Ça va.
À ce moment-là, on n'est pas désabusé.
voilà. Timing, enfin, là, ça fait même pas un an et demi qu'on est en essai.
Ouais, avec pas des essais tout le temps.
Avec pas des essais tout le temps. Donc, mois. Un an et quelques, ça nous paraît pas, ça nous paraît pas démentiel. Voilà. Et puis, on est content.
Et alors, comment ça se passe pour vous?
Eh ben, ça se passe mal. Non, enfin, ça se passe bien pendant quelques semaines. Et puis, en fait, très vite, j'ai des douleurs à l'ovaire. Alors, je sais plus lequel. Bref, droite, gauche. Et j'ai mal. J'ai mal sur le côté. Je dis à Clem que j'ai mal. Et puis, je me mets à faire des recherches sur Internet. Ce qu'il faut pas faire. Mais là, vraisemblablement, c'était quand même vrai. Ça parlait tout de suite de grossesse extra-utérine. Donc, je me mets en tête que je fais une grossesse extra-utérine. Je vais à l'hôpital, aux urgences obstétriques, là, aux urgences gynéco. Ils me font une écho. Et ils me disent non, bah on voit bien le sac gestationnel, on voit bien, enfin c'est le tout début, je dois être à, si ça doit faire 2 semaines que je suis au cours, enfin je dois être à 6 SA, enfin je me souviens plus dans les détails, mais oui ça doit être ça, je suis à 6 semaines d'aménorrhée, donc c'est vraiment le tout début, et ils me disent non, le sac est bien intra-utérin, on voit quelque chose dedans, un œuf qui va se développer, enfin ils voient pas grand chose, mais ils voient qu'il y a quelque chose et que c'est intra-utérin. Sauf que moi, j'ai des douleurs qui continuent, donc on me fait des prises de sang, donc je dois aller à l'hôpital tous les 2-3 jours, un truc comme ça. Et ça dure pendant une bonne semaine et demie. Entre-temps, j'ai pris rendez-vous avec mon gynéco, quand même, pour faire le point avec lui. Et c'est 2 semaines plus tard, je crois, un truc comme ça. Donc, je fais ce suivi à l'hôpital, parce que j'ai toujours mal. Mon taux augmente aux prises de sang, donc c'est bon, il augmente lentement, mais il augmente. Il voit toujours le sac qui est intra-utérin, il voit un œuf, alors il voit pas très bien, c'est la vésicule vitrine, un truc comme ça. Enfin, j'ai plus trop les termes, mais je crois que c'est ça. Mais ils me disent qu'a priori, ça va. Bon, après, c'est les urgences, c'est sur... c'est beaucoup de monde, les rendez-vous, ça va très vite, c'est pas des conditions... moi, à chaque fois, moi, j'ai des rendez-vous qui durent, je sais pas, 10 minutes top chrono, avec à chaque fois une personne différente, j'ai aucun suivi particulier. Donc, bon, ça se fait comme ça, j'ai toujours mal, et mon rendez-vous gynéco arrive, et là, il me dit que la grossesse, en fait, elle s'est arrêtée. Donc, il me le dit avec des mots un peu plus sympas quand même, mais en gros, la grossesse s'est arrêtée. On est à 8 ou 9 semaines d'aménorrhée, là. Donc, ça fait 2 semaines que je fais les allers-retours à l'hôpital et qu'on essaye de me rassurer. Et là, lui me dit, la grossesse s'est arrêtée. Et tant mieux, avec des grosses guillemets, parce que elle était bien extra-utérine, cette grossesse. C'est une grossesse, j'ai dû rechercher le mot, là, parce que j'avais oublié, cornuale. Donc, en fait, c'est un type de grossesse extra-utérine très rare qui se met dans la trompe, dans la corne de la trompe. Et c'est très difficilement détectable avec une écho.
Donc, mais qu'est-ce qu'ils avaient vu alors à la première écho?
Eh ben, ils voyaient que c'était intra-utérin. Pour eux, c'était intra-utérin, il n'y avait pas de souci.
D'accord.
C'est tellement à l'entrée en fait de la corne que avec les instruments pas super sophistiqués des urgences, ils n'arrivent pas à bien déceler. Et ce qui est hyper dangereux parce qu'en fait, si ça se développe, en fait, ça pète la trompe. Et là, tu fais une hémorragie interne, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il mettait des grosses grimées. Il dit, tant mieux, parce que c'était un danger pour vous.
Ouais. Donc, finalement, valait entre guillemets mieux que ça se passe comme ça.
Oui, mais c'est aussi pour ça que j'avais cette douleur et que je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette douleur à l'ovaire. Enfin, voilà, de ce côté-là, je ne comprenais pas. Et en fait, c'était... J'ai fait cette forme rare de grossesse extra-utérine qu'on appelle grossesse cornuale. Et donc, du coup, il me dit qu'il va falloir expulser cette grossesse, quoi, qui s'est arrêtée. Donc, du coup, j'ai fait il m'a donné un médicament et j'ai dû avortement, je ne sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, j'ai dû expulser cette grossesse de façon médicamenteuse. Donc, du coup, ça s'est fait comme ça
Sur
un week-end, parce qu'en plus, alors là, on te donne pas d'arrêt maladie, on te propose pas de suivi psy. Là, en 2015, en tout cas, et avec ce gynéco-là, c'était...
Prends le médicament. Bon courage.
Ah oui, et du paracétamol. Ouais. Oui, vous allez avoir un petit peu mal, paracétamol. Bon, c'était horrible, c'était hyper douloureux, c'était des contractions. Donc, forcément, c'était le paracétamol, c'est pas l'idéal, quoi, ça c'est pas suffisant, mais
ça c'est clair.
Ça s'arrête comme ça pour cette grossesse là Et nous, ça nous arrête tout court, quoi. Ça nous stoppe toute envie de continuer. En tout cas, sur le moment, on se dit qu'on va faire une belle pause avec ce projet bébé. Et puis, voilà. Ouais,
on se dit qu'on va prendre du temps pour nous parce qu'il faut... faut digérer ça parce qu'il y a quand même un deuil de grossesse à faire
et puis les conditions quoi, ouais, se suivre pendant 2-3 semaines tous les 2-3 jours à l'hôpital et puis finalement c'est grossesse hyper long. Ouais, c'est hyper long et puis en plus quand on te dit que en gros bah heureusement que ça s'est arrêté sinon en gros tu pouvais presque en mourir parce que au final c'est des grossesses tellement rares c'est un cas tellement rare qu'il n'est pas forcément détectable. Et ça peut être très dangereux. Donc, du coup, c'est plein d'informations à digérer, alors que nous, on était vraiment partis, naïfs que l'on est, sur, pour nous, la grossesse, c'est, voilà, à ce moment-là, on n'a pas toutes les infos sur les problématiques possibles qu'on peut avoir. On n'a pas un suivi
qui est pas top, hein.
On a un suivi qui est pas top. Donc, voilà. Donc, ça nous met une belle claque et puis ça nous stoppe dans cette envie-là.
Et je trouve que tu as été hyper seule, alors déjà, sur cet accompagnement médical qui n'a pas été un. Donc il y a la fausse couche et puis après la fausse couche que ce soit médicalement mais même en fait l'entourage se rend pas compte à ce moment-là de ce qui s'est passé puisque ils sont pas forcément au courant qu'il y a eu une grossesse.
Ouais, voilà.
On leur dit il y a eu une fausse couche mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là personne se rend compte de ce qui s'est passé.
Oui, et puis c'est toujours les phrases ça sera pas la prochaine fois, la nature est bien faite, blablabla, enfin les trucs qu'on n'a pas spécialement envie d'entendre.
En fait, pas du
c'est ça exactement.
Pas du tout réconfortant. Chacun fait comme il peut, mais c'est vrai que il y a pas eu vraiment de réconfort et donc c'est pour ça qu'on aussi on a eu besoin de cette coupure et de se dire on se recentre un peu sur nous, on en profite un petit peu. Là-dessus, on démarre du bénévolat, une bonne année de bénévolat où on va pas du tout faire des séances.
Ouais, en 2015 et 2016 même. Oui. Là, on se lance dans autre chose. On se ressent sur nous et sur l'autre, mais l'autre avec un grand A, pas l'autre, le bébé. Mm-hmm. Et voilà, on s'engage dans autre chose et ça nous fait du bien aussi. On essaye de faire du bien et ça nous fait énormément de bien. Et on se marie aussi, accessoirement, en 2016.
Ah bah oui.
On se marie. Voilà.
Beau projet.
Après 9 ans de couple, de vie en couple, on se marie en 2016. Et là, en 2017, c'est là où on se dit, allez, c'est reparti. Là, on est beaucoup... Enfin, il y a du temps qui est passé. On a de l'expérience. On a vécu plein de choses. On a rencontré plein de monde. On est beaucoup plus entourés.
On a vachement mûri aussi, je pense. Enfin, là, les expériences les premières expériences d'essai bébé, les expériences de bénévolat, etc., ça nous fait beaucoup mûrir aussi. Et on repart... malheureusement, le premier donneur a déménagé. C'est trop compliqué de redémarrer avec lui. Donc là, c'est toi qui vas faire les recherches, les recherches d'un nouveau donneur.
Oui, parce qu'on repart sur la méthode artisanale, puisqu'on s'est dit ça a fonctionné, on avait le bon feeling avec cette personne. On va essayer de trouver un donneur, un donneur avec qui on a le feeling et avec qui on peut reprendre là où on s'était arrêté. Mais toujours mieux entouré parce que j'ai changé de gynéco. C'est quelqu'un avec qui je parle pas mal, qui est au courant de notre composition familiale, de nos projets, etc. Donc déjà tout ça, ça aide à être être accompagné dans le projet et à se sentir plus confiant, quoi. Donc là, on repart sur les recherches de donneurs et ça c'est moins rigolo.
Ouais, je me doute.
Autant la première fois, on trouve très vite, donc on a l'impression que ça va être pareil cette fois-là. Autant je sais pas si les années passant il y a plus d'hommes qui se proposent mais de façon un peu inconsciente, j'en sais rien. En tout cas, on tombe sur plusieurs personnages. C'est très chronophage de chercher. C'est très énergivore aussi parce que on passe du temps à parler, à échanger, à se présenter, à présenter notre projet. Et puis on tombe vraiment sur tout et n'importe quoi. Dans les propositions. Donc finalement
on en rencontre quelques-uns, on boit un café avec quelques personnes et là on se dit mais qu'est-ce que c'est que ces énergumènes, des gars un peu louches quand même, faut quand même le dire.
Ouais, c'est là où on voit le côté glauque que peut avoir la méthode artisanale si on est par exemple désespéré au point d'accepter certaines propositions, enfin désespéré ou pas, hein, parce qu'attention, il y a des personnes pour qui il y a pas de souci à, parce que chacun a ses conditions. Nous, on avait des conditions et
on voulait tomber sur quelqu'un de bien, sur quelqu'un de sain, et là on est tombé sur des gens pas très sains. Donc on désespère un petit peu au bout de quelques rencontres quand même. On se dit est-ce qu'on va tomber sur quelqu'un d'aussi bien que notre premier donneur qui était vraiment sympa et correct.
On en avait rencontré un qui finalement sera le donneur de Solal, mais qu'on avait mis, si je puis dire, de côté pour par rapport à ses origines.
Voilà.
Parce que c'était un homme d'origine asiatique, enfin d'origine vietnamienne. Et nous, dans notre idée, dans notre idéal, on cherchait un donneur de type caucasien, puisqu'on est tous les deux de type caucasien. Donc, c'était au début un critère pour nous de trouver quelqu'un de type caucasien, alors même qu'on avait eu de bons échanges avec cette personne. Mais bon, voilà, je m'étais dit, quitte à pouvoir, entre guillemets, choisir, je préfère essayer de trouver quelqu'un qui nous ressemble physiquement, j'entends.
Oui, c'est ça. C'était un critère au départ.
Et puis, en fait, cet homme, il nous recontacte parce qu'on a gardé un petit contact, et il nous dit, est-ce que vous voulez qu'on se rencontre quand même, etc. Donc, on le rencontre en réel. Il habite pas loin de la maison, pas très, très loin. On est tous les deux de banlieue parisienne et tous les trois de banlieue parisienne et tous les trois du même département. Et donc, il est assez dispo. Donc, on se rencontre. Et là, franchement, on retrouve ce feeling qu'on avait eu avec le premier donneur, quelque chose de très sain, de très simple. Lui, il a une histoire qui nous touche particulièrement, une enfance qui nous touche particulièrement, et puis sa façon de voir les choses pour la suite, c'est exactement la même que la nôtre, quoi. Donc, c'est-à-dire, je fais ce don, et puis après, si vous voulez me donner des nouvelles, moi, c'est avec plaisir, mais c'est pas moi qui vais interférer dans votre vie, dans votre vie de parent avec votre enfant, mais je serais heureux d'avoir des nouvelles, il n'y a aucun souci. Si un jour, votre enfant veut me contacter ou veut en savoir un peu plus sur moi, je peux me rendre disponible pour lui donner ces informations-là tout en n'interférant pas à aucun moment dans votre vie. Vous avez chacun votre rôle de parent. Moi, je suis le donneur de cet enfant. Et nous, c'était vraiment le cadre qu'on voulait donner à cette parentalité. On voulait pas de coparentalité et on voulait être deux parents avec un donneur. Et c'est... Voilà. Ouais. C'est, on voulait aussi. Donc après, ça nous a amené à la réflexion de savoir est-ce qu'on partait dans ce voyage-là de la parentalité avec ce donneur et donc avoir un enfant qui serait eurasien. Donc on savait qu'il serait magnifique, c'est pas le problème, mais c'était cette potentielle recherche de ses origines, parce que c'est normal. À un moment, je pense que beaucoup des enfants issus de dons ont des questions, recherchent un petit peu d'où ils viennent, etc. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'était, est-ce que le fait de se voir dans un miroir et de se dire mon reflet, c'est pas celui de mes parents, je ressemble pas, même s'il ressemble beaucoup à Clem, mais voilà, j'ai ces traits eurasiens que n'ont pas mes parents, les moqueries potentielles, parce que les enfants, ils sont très très durs entre eux, ils trouvent n'importe quel moyen pour se moquer. Est-ce que là, le fait qu'il était très asiatique, ça allait pas favoriser, du racisme, des moqueries, donc il y avait un peu tous ces questionnements là que finalement on balaye, parce qu'on se dit que de toute façon, comme je viens de dire, les enfants, ils se moquent les uns des autres pour n'importe quelle raison. Donc de toute façon,
ils trouvent toujours.
Voilà, il sera moqué. Nous, on lui donnera les armes, en tout cas les mots, pour se défendre au mieux. Être fier aussi de qui il est, d'où il vient. Il aura toutes les informations sur ce géniteur. Donc, même s'il a une recherche un peu plus intense que d'autres sur ses origines, il aura les réponses pour cette recherche-là. Donc voilà, en fait, on a un petit peu tout qui s'imbrique en se disant, on s'est un petit peu pris la tête pour rien, même si c'était bien d'avoir...
Je pense qu'il fallait quand même passer par cette réflexion quand même.
Ouais, c'est clair.
Parce qu'elle est importante, et puis parce que de toute façon, c'est aussi le quotidien, c'est affiché sur nos visages que génétiquement, il y a une différence.
C'était bien d'y réfléchir.
Il fallait pas foncer tête baissée sans se poser de questions.
Mais c'est toujours l'idée de pas faire un bébé à tout prix. C'est-à-dire de le faire, mais toujours de façon réfléchi pour que plus tard, s'il a des questions, nous, on ait les réponses parce qu'on y aura pensé avant, quoi.
Oui. Puis je suppose que vous avez dû vous interroger aussi sur les réflexions des adultes, parce que déjà qu'on nous pose tout le temps la question de comment on a fait nos enfants, là, forcément, le fait que Solal ait des origines qui ne soient pas les mêmes que les vôtres, ça l'est interpellé encore plus.
Oui, bah alors franchement, l'idée, enfin, pour les adultes, moi, j'y ai pas tellement pensé sur le moment. J'étais fixée sur les moqueries potentielles des enfants, je sais pas toi. Les adultes en soi. Ouais, on se disait, de toute façon, ils vont nous poser la question, comment il a été conçu cet enfant.
Oui, de toute façon, il y avait un truc évident, c'est qu'à l'époque, on était identifiés comme deux femmes, et que de toute manière, il était évident que ça pouvait pas être nos deux gènes, nos gènes à chacun. Donc,
enfin, sauf si on avait fait une fibropa, etc., mais on savait même pas que ça existait à
l'époque.
Oui,
mais de toute façon, c'était pas.
Pas nos deux gènes. Oui, effectivement.
Donc, à partir de là, comme il était évident qu'il y avait forcément...
Oui, complètement.
Que l'un ou l'autre de nous qui avait porté...
Mais aujourd'hui, on peut te confirmer que oui, les adultes posent plus de questions quand c'est un enfant qui ne nous ressemble pas, à fond et qui a d'autres traits. Voilà, oui, là, c'est plus d'ailleurs pour l'instant les adultes
qui se posent des questions.
À savoir si, en gros, est-ce que vous l'avez adopté, quoi. Mais ils nous le demandent pas comme ça, hein, mais
cela oui, dit, en fait, parce que... c'est même pas forcément, on a eu l'expérience d'une personne idiote, mais genre pas forcément mal attentionnée, qui en fait disent tout de suite, bah vous l'avez adopté, enfin sans dire clairement comment.
Oui, mais c'est votre fils. D'accord,
mais comment c'est possible?
Et il a des traits asiatiques. Oui. Voilà, oui. Bon, et on attend la suite, mais comme nous on développe pas, il développe pas non plus, et puis ça s'arrête là, et puis on s'en va. Mais enfin, ça nous est arrivé quoi, 2-3 fois en tout. C'est quand même assez gênant. En plus, ils le font devant l'enfant, quoi. Donc là, pour l'instant, ils comprennent pas trop, mais.
Ouais, mais c'est clair.
Donc oui. En fait, sur le moment, on s'interroge pas trop sur les adultes, mais finalement, c'est les pires pour l'instant. C'est eux qui s'immiscent un peu par rapport à ses traits et à ses origines.
Ouais, j'ai le cas avec les triplés, moi, de mon côté, et c'est pour ça que je suis étonnée que les gens rentrent pas tant que ça. Enfin, moi, vraiment, les gens, ils ont des discours, mais hyper déplacés vis-à-vis des filles. Le nombre de fois, on m'a dit, c'est bien chez les autres, c'est parce que vous avez pas pu avorter, c'est là, mais et devant les enfants, quoi. Ouais. Mais c'est horrible ce qui vous arrive. T'es là, mais non, tout va bien. Je me dis, et encore maintenant, à 6 ans,
Devant les filles, en plus.
Devant les filles.
Ah. Oui, bah ça, c'est un petit peu ce que je crains pour la suite.
C'est ce qu'on disait, c'est que quel que soit le sujet, les gens ont quelque chose à dire de toute manière. J'aurais même pas pensé, pour les triplés, que tu puisses avoir de réflexion. Mais si. Et donc, tu vois, c'est des origines, ça aurait pu être totalement autre chose. Donc,
oui, il y a toujours quelque chose.
Après, c'est à nous aussi, l'expérience des réflexions qu'on peut avoir. À chaque fois, on se débriefe en disant, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on dit?
Oui, c'est ça, parce que devant le fait accompli, on est un peu perdu. Et après, la prochaine fois, il faut qu'on dise comme ci, comme ça. Et en fait, on affine.
Je pense qu'on va être de plus en plus affirmé aussi dans nos réponses à un petit peu stopper les gens. Et surtout, quand Solal est là, parce qu'il n'a pas à entendre ça, il faut qu'il reste dans son monde d'enfant. Et puis, les enfants, ils ne voient pas la couleur. Donc, ils s'en foutent de savoir... Si t'as les yeux bridés, si t'es noir ou si t'es blanc, je pense que on les voit jouer tous ensemble et eux ils s'en foutent. Et effectivement, c'est plus un regard d'adulte de se dire mais toi t'as les yeux bridés ou y a que nous qui voyons ça en fait.
Mais complètement, les enfants ils voient absolument ni les couleurs ni les différences. Alors au niveau des familles un petit peu quand même, je trouve que maintenant les enfants ils comprennent, mais je crois que c'est surtout les parents, les paroles de leurs parents qu'ils entendent dans la maison et du coup ils redescendent l'info.
Un enfant effectivement il va s'il voit la différence et si tu lui dis c'est comme ça, il va dire ok et puis il pense à autre chose et c'est fini.
C'est ça.
Lui.
Donc exactement ça.
Il n'y a pas de grandes difficultés on va dire.
Je suis complètement d'accord avec toi. Avec vous, pardon. Moi, c'est ce que je constate aussi au quotidien avec les enfants et à l'école avec les enfants. Et souvent, quand les enfants viennent me voir en me disant, mais c'est pas possible qu'elles aient deux mamans, les filles. Ben, si, c'est possible, la preuve. Ok.
C'est ça. Donc, ils vont pas chercher plus loin, c'est intégré. Non. Bon, ben, je savais pas, maintenant voilà. Je sais, et puis c'est tout, quoi.
Enfin, ouais, sauf si
c'est, c'est possible.
Et que, voilà, en en parlant.
Voilà.
Encore,
et après.
Ma copine, elle a deux mamans. Mais c'est pas possible qu'elle ait deux mamans. Ben, si.
C'est ça. Mais nous, on a eu une petite fille comme ça, qu'on a eu à la maison et qui est venue sans problème, tu vois. Et puis, elle explique à ses parents le soir que les enfants ont deux mamans. Et sa mère, elle lui dit oui, non, mais la deuxième maman, c'est pas sa vraie maman.
Oh. Ah. Voilà.
Donc, on a dû réexpliquer.
Bien sûr, voilà. Ouais.
Bon, après, c'est comme ça. De toute manière, on le sait avant de faire nos enfants qu'on va être confronté à ça.
Oui. Oui, c'est jamais agréable d'être confronté par contre, mais bon.
Bah,
ouais, je me doute. Non, mais c'est sûr que c'est pas simple. Et c'est sûr qu'on aimerait que ce soit fluide et que personne se pose de questions, parce que c'est hyper indiscret finalement. Enfin,
totalement.
C'est notre histoire, c'est pas la leur.
Exactement. Et ça n'a pas d'impact sur la leur, c'est ce qu'on dit depuis.
Oui, c'est ça, ça n'impacte pas leur vie à eux. Donc,
depuis toujours, très... hein, ça n'impacte que nous et nous, on le vit bien. Donc.
Bah ouais.
Voilà.
Et alors, cette réflexion-là par rapport au donneur de Solal et donc aux origines du donneur de Solal, elle vous prend un peu de temps ou finalement vous avez vite balayé le truc et vous avez sélectionné ce donneur ?
Alors, au début, quand même, si. C'est-à-dire qu'on se dit, quand on échange avec lui, on voit que ça se passe bien, que ça a l'air, en tout cas, par nos échanges écrits, ça a l'air d'être quelqu'un de bien, mais on ne se dit pas, on va quand même le rencontrer, on se dit, ben non.
Bah, on l'a quand même laissé de côté, effectivement, quelques mois. En cherchant quelqu'un d'autre. Donc il y a quand même ces quelques mois où on se dit ben non, ça il est super sympa mais ça va pas le faire. Et quand on voit que finalement ben tous les Caucasiens qu'on rencontre
on en rencontre pas beaucoup mais c'est vrai que c'est pas voilà.
En fait,
vous êtes pas en adéquation avec les profils quoi.
On n'est pas du tout en adéquation.
On se dit finalement c'est pas le fait d'être Caucasien ou pas, c'est le fait d'être quelqu'un de bien et quelqu'un
Oui, on préfère que Solal, voilà, que enfin notre enfant ait un donneur avec qui justement ça s'est fait de façon saine, ça s'est fait de façon comment dire avec ce feeling là entre le donneur et les parents, plutôt qu'on aille avec quelqu'un où on se dit il est un peu louche, on ne sait pas comment ça va se passer après, mais bon, tant pis, il est caucasien, et comme nous, donc on fonçons. Enfin, c'est voilà, on revoit notre priorité. Et puis, du coup, toute cette réflexion, comme on disait tout à l'heure, sur le fait que finalement, qu'est-ce que ça peut faire qu'il soit eurasien il aura les réponses à ses questions. Justement, avec un donneur qui pourra lui aussi répondre à ses questions si besoin. Donc, ça, c'est très important.
En fait, ça, au niveau des critères, ça collait totalement. Quoi. Le discours qu'il a eu quand on l'a rencontré, on se dit c'est juste évident que.
Oui, voilà. Du coup, on fait cette rencontre en réel pour se dire, on va voir, du coup, si ce qui se passe par écrit se confirme en se voyant. Et oui, ça se confirme en se voyant. Donc là, oui, pour le coup, tous nos doutes, ils sont balayés en se disant, ça y est, c'est bon, lui, il est OK, nous, on est OK. Donc, on veut reprendre le parcours. En plus, ça nous rebooste. On va reprendre le parcours avec ce donneur-là.
Voilà. Et est-ce que vous avez réfléchi à ce moment-là, l'acceptation, quelque part, c'est votre histoire, mais est-ce que vos familles respectives allaient valider ou pas, en fait ?
Non.
Ben non, pas du tout. Franchement, non.
Sur les origines, en tout cas, nous, on a des familles qui sont ouvertes sur ce sujet,
Oui, donc il n'y avait pas de questions, en fait.
Il n'y avait pas de questions par rapport à ça.
Mais non, mais c'est hyper positif. Si vous n'êtes pas posé la question, c'est que vous saviez que il n'y avait pas de questions.
Oui, exactement. Ouais.
Ok.
Du coup, on s'enchaîne les premiers dons sur Maud. Mm-hmm. On a fait les...
Oui. Avec Maud.
Du coup, vous étiez resté sur Maud, entre guillemets, malgré l'expérience. Enfin, toi, tu n'étais pas vacciné du truc, on va dire.
J'avais envie. En fait, justement, ouais. Moi, je me suis dit, ça a fonctionné une fois, ça va refonctionner. Voilà. Maintenant que on a tout ça s'est balayé, c'est derrière nous. On est accompagné, on est plus mûr, etc. Comme ça a marché il y a 2 ans, ça va marcher cette fois. Enfin, je ne me suis pas posé de questions là-dessus.
Le gynéco que tu avais vu avait été très positif aussi. Il avait dit
le jour de la fausse couche.
Quand ça a fait la fausse couche, ouais, il avait dit. voilà, c'est une fausse couche, mais vous inquiétez pas, d'ici quelques mois, ça va fonctionner.
Il m'avait dit, vous avez de très beaux ovaires, vous avez tout ce qu'il faut où il faut. Enfin, il était hyper confiant. Bref, je l'avais vu deux fois dans ma vie, mais c'est pas grave. Lui, il était, pour lui, c'était.
Ouais, mais c'est bien le discours. C'est rassurant. Enfin, tu vois, c'est hyper positif. Ouais.
Sauf que, bon, bah, c'était pas tout à fait vrai. Parce que du coup, on reprend les essais, donc on est, on est en 2017, on reprend les essais. On est content, parce que on a toujours ce feeling avec le donneur. Moi, j'ai donc cette nouvelle gynéco. Je lui parle du projet. On a dû faire peut-être 3 essais négatifs. Et puis, je lui dis qu'il y a des mois où mes tests, alors, on a évolué dans les tests d'ovulation. On est sur des trucs un petit peu plus précis, etc. C'est plus la petite banquette. Mais donc, je lui en parle. Et je lui dis surtout que donc, il y a des mois où j'ai l'impression de ne pas ovuler. Et puis toujours ces douleurs atroces pendant les règles, mais que j'ai depuis des années. Donc avec l'entourage qui te dit que c'est normal d'avoir ces douleurs, puisque il faut subir pendant ces périodes de menstruation. Et ma gynéco qui m'arrête et qui me dit non, on va reprendre depuis le début. On va faire des examens, et tout de suite elle pense ovaire polykystique et endométriose. Je fais les examens, donc je fais une écho, j'ai bien. Alors j'ai les ovaires micro-polykystiques, je crois que c'était ça. Enfin, j'ai plus trop les termes, mais je crois que c'était ça. D'où les troubles de mon ovulation. Donc j'ovule pas tous les mois. Je peux avoir des cycles irréguliers, des cycles longs, enfin, ce qui complique grandement les choses. Et elle me fait faire une IRM pelvienne et on découvre une endométriose. Alors à un stade très très léger. C'est très bien parce qu'a priori, j'ai pas d'endométriose qui s'est étendue avec le temps, alors que ça fait des années que je souffre et que j'ai pas de traitement particulier. Du coup, ils m'ont dit oui, il y a de l'endométriose, pas un stade avancé heureusement, mais il y a de l'endométriose. Donc, je me retrouve avec ces deux grosses valises, ovaire polykystique et endométriose. Je me retrouve avec ça.
Accroché à toi, quoi.
Voilà, accroché à moi. Évidemment, je sais que les deux pathologies font que ça va être plus compliqué pour concevoir un enfant sans aide médicale, mais je me mets dans un déni, si tu veux, où je me dis, mais non, ça a marché une fois, je vois pas pourquoi ça refonctionnerait pas. En fait, je me lance dans une espèce de course à la grossesse, mais c'est un peu, pour le coup, obsessionnel et pas du tout rationnel, quoi. C'est, ça va marcher, je vais porter notre enfant. À ce moment-là, Clem me dit, c'est là où tu te proposes une première fois.
Oui, je dis une première fois, je dis écoute, en plus c'était un jour où on allait faire un essai.
Ouais, une période où on devait faire un essai.
Je crois que t'étais pas sûr de ton ovulation. Mm-hmm. On avait quand même programmé le rendez-vous et je dis écoute, là moi je suis en ovulation, si tu veux, on le fait sur moi.
On tente.
Je dis ça innocemment et Maud en fait le prend comme un coup de massue et parce que je le savais pas hein, mais que t'étais de cette façon obsessionnelle dans ton truc de te dire il faut que je tombe enceinte et le prend super mal parce que j'ai l'impression que ça t'a déchiré quoi d'imaginer que ça puisse être moi à ce moment-là et non c'est pas possible c'est moi qui fais les essais et du coup on fait quand même l'essai sur toi
voilà qui est négatif bien sûr. Puisque ça va être très compliqué et je le sais.
On connaît la fin de l'histoire donc.
Voilà donc négatif et donc là je fais donc en tout là j'en refais pas beaucoup je fais genre deux essais
supplémentaires
sur moi, en disant faut que j'y arrive et d'un coup tout ça s'est passé on est genre en 2018 du coup avec tous ces examens c'est
mi 2018 pratiquement
et là je lâche un peu l'affaire et je dis c'est bon j'en peux plus et j'ai plus envie. Là c'est moi qui me dis ça marchera pas, j'ai plus envie de continuer, en tout cas j'ai envie de passer le relais si tu veux toujours prendre
je pense
ce relais.
Qu'en fait t'avais besoin de ce temps pour faire le travail psychologique de se dire ok ça sera pas moi.
Ça serait pas moi, ou en tout cas pas dans ces conditions-là. Et moi, j'avais envie que ça se passe dans ces conditions-là, avec ce donneur-là. Et du coup,
le temps a fait son effet. Et puis, du coup, tu me proposes, tu me dis, on savait que le donneur allait bientôt partir, je crois.
Non, enfin, on savait pas. Je sais plus. Mais en tout cas, oui, le donneur allait bientôt partir parce que Du coup, je propose à Clem de prendre le relais. Et Clem, toi, t'es OK?
Je dis, bah, OK, de toute façon, bah, en fait, ça fait tellement longtemps qu'on est dans ce truc-là que je dis OK, comme si, en fait, ça n'allait jamais arriver.
Ouais, c'est vrai.
Je dis OK, de toute façon, ça continue. Enfin, c'est le chemin. On essaye, ça marche pas.
En fait, voilà, notre parcours pour avoir un enfant, c'est juste des essais infructueux. Voilà. Et on ne se dit pas que ça peut fonctionner à un moment. En fait, on est vraiment parti dans cette. C'est pour ça que je te dis qu'on ne compte plus. Les essais avec toutes les pauses, les annonces diverses, etc. À un moment, on ne sait plus où on en est. Et nos essais, ça sera des négatifs. On ne fait même plus les tests, on attend les règles. Et puis hop, c'est assez automatique, quoi. C'est... Sauf que là, du coup, le donneur nous annonce qu'il part dans 2 mois, qu'il déménage dans le sud. Donc nous, ce n'est pas possible. On ne va pas suivre dans le sud. Voilà, c'est beaucoup trop compliqué. Et puis, on se résigne. On se dit, bon, écoute, on fait ces 2 derniers essais-là. Et puis, si ça ne fonctionne pas, et bien, ça veut dire que voilà, on va rester tous les deux. Peut-être qu'on se renseignera sur une PMA en Belgique, mais sur Clem, pour pas qu'on parte dans des histoires de FIV, etc. Mais peut-être, mais c'est pas sûr. Voilà, dans l'idée, on fait les 2 derniers essais, et puis si ça fonctionne pas, très probablement que ce s'arrêtera là. Voilà, c'est qu'on est fait pour...
Ouais, vous êtes assez fataliste pour le coup.
Oui, ouais. Voilà, là pour le coup, on est vraiment fatigué de que ça fonctionne pas, et du parcours, quoi, des nouvelles qui sont pas bonnes à chaque fois, donc c'est un peu pénible, et voilà, ouais. Donc
premier essai sur moi.
En juin 2018,
ça fonctionne pas. Ok, ben on se redonne rendez-vous en juillet.
Pour se dire adieu.
Fin juillet, puisqu'il s'en va. Ouais, c'est vraiment l'ultime.
Oui, donc là, il vous a informé qu'il s'en allait.
Ouais, il nous a dit je pars dans le sud. En fait, il
je
avait
crois
été.
Qu'il partait la semaine d'après.
Il était muté, donc il nous avait prévenu en mai. Il nous dit en juillet, je pars dans le sud. Ok, très bien. Donc on fait cet essai en juin négatif. Et on fait l'essai en juillet, donc le dernier, et on se dit au revoir, et on se dit bah merci pour tout, bonne continuation dans le sud pour lui, et on croise les doigts, mais voilà quoi.
Sans vraiment y croire, ouais. En plus, on partait en voyage en août, donc en fait...
Oui, je te propose de faire un test de grossesse avant de partir, ou d'emmener un test de grossesse, parce qu'on partait tout début août, donc ça faisait à peine 2 semaines.
À savoir qu'on partait en Iran en plus... Donc,
voilà, oui.
Donc voilà, j'étais à 2 doigts de faire un test et puis je fais non.
Ni d'en emmener, on n'en emmène même pas.
On n'en emmène pas, on verra bien. Je dis, on verra bien. Et nous voilà partis avec nos sacs à dos en Iran.
Voilà, le pays le plus open pour les droits LGBT du monde, bien
comme
sûr.
C'est
bien connu.
Et quelle idée à ce moment-là. Après, ça doit être magnifique. Hein.
C'était la deuxième fois qu'on y allait, en fait. On y était déjà allé
l'année d'avant.
D'accord.
Pour donc, notre voyage de noces. Voilà.
D'accord.
Non, c'est magnifique. Et du coup, on voulait vraiment y retourner. On avait des amis là-bas aussi, on voulait les revoir, etc. Donc du coup, on repart et puis pareil, on se pose pas trop de questions sur l'issue du test de toute façon.
Enfin, on y pense un petit peu en fond, mais sans trop. Moi, je vois des premiers signes à me dire bon, c'est quand même peut-être que c'est positif, mais sans trop le dire.
Oui, tu m'en parles pas, c'est vrai.
Non, je t'en parle pas trop parce que.
Pas donner d'espoir.
Bah non.
Oui, voilà.
C'était tellement.
On sait jamais ce qu'on s'invente dans sa tête.
Bah, c'est vrai que c'est ça. C'était tellement improbable que je me dis, bon, je le sens, mais sans vouloir y croire. Et puis, à un moment donné, quand même, j'ai vachement de retard.
Oui, c'est ça. Et puis, moi, tous les jours, je lui dis, t'as tes règles. Le lendemain, t'as tes règles. Voilà. Et le voyage se passe avec chaque jour, t'as tes règles, 10 fois par jour. Donc au bout d'un moment quand même, c'est notre ami qui va acheter un test de grossesse pour nous parce que voilà, donc, la barrière de la langue, le flip un peu, on sait pas trop quelles sont les mœurs par rapport à ça là-bas. Et donc notre ami va acheter un test de grossesse. On se retrouve dans un café qui s'appelle le Don Café, donc c'est quand même assez rigolo. On a pris une photo de l'endroit parce que voilà.
C'était improbable. Et je vais avec... en plus, c'était toute une histoire. Bref, je vais aux toilettes faire le test. Alors, évidemment, vu que c'était finalement plutôt avancé, parce que ça faisait...
C'était mi-août, quoi. Un mois
de grossesse, finalement.
La barre
s'affiche. Donc, ça s'affiche tout de suite. Et puis, voilà, quoi. On fait... j'arrive, ils étaient tous les deux en train de boire un verre à table. Je dis, c'est positif. Mais je crois que à ce moment-là, je m'en rends pas compte.
Non, mais ce qui est marrant, c'est que mon ami, il filme à ce moment-là. Parce que lui, il est photographe.
Ah, ça, c'est chouette.
Et là, il filme, en fait. Alors, il me filme pendant que Clem est aux toilettes et il me demande comment tu te sens. Et puis, moi, je suis super gênée. J'ai pas envie de répondre. C'est dommage parce qu'avec le recul, tu te dis qu'on a cette vidéo-là et puis on voit Clem qui arrive et tout. Enfin, c'est assez drôle qu'il ait filmé ce moment-là. Mais donc, voilà. Ouais. Du coup, ce test était positif et le petit loup s'est accroché.
Ouais.
Ce qui n'était pas gagné parce que franchement, le voyage était assez rock'n'roll. Il faisait 50 degrés.
Il faisait 50 degrés. Voilà. Comme des malades dans les voitures. On a pris des bus à n'en plus finir. Mais il s'est bien accroché. Il était bien au chaud.
C'est 50 degrés. Et toi, Maud, t'as réagi comment à cette
annonce? Sur le moment, j'ai pas trop réalisé. Franchement, le fait qu'on soit ailleurs, qu'on soit entouré aussi, parce qu'on s'est retrouvé très très peu. On était avec nos amis presque tout le voyage. Donc, on s'est retrouvé très peu à deux. J'avais envie de rentrer, du coup. On avait envie de rentrer. On avait envie de retrouver notre chez nous. On avait envie d'aller voir notre gynéco, du coup, qui était la même pour nous deux. On avait envie d'aller la voir. On avait envie de concrétiser les choses, de réaliser. Bon, ça va, il nous restait genre 5 jours à peu près. Donc pendant 5 jours,
c'était interminable.
Oui, Clem, en fait, après tout le reste du voyage, est resté enfermé dans l'appartement.
J'étais fatiguée, en fait. J'ai eu la fatigue de grossesse tout de suite, en fait.
Et puis là, avec la voilà, fallait que t'aies la clim et.
Il faisait 50 degrés. Faut pas oublier que 50 degrés, c'est difficile.
Oui,
ça écrase. Hein.
Ouais, c'était écrasant. Je passais mon temps à dormir, en fait, sur la fin du voyage.
Mais du coup, c'est vrai qu'on était peu ensemble, parce que moi, tu te reposais, moi, je sortais, on faisait des visites. Donc, ça a duré quelques jours, à peine une semaine. Et là, c'est la fin du voyage, on rentre. Et là, oui, c'est là où on a quand même réalisé
ce
qui se passait. On se pose chez nous. Voilà, et tout de suite, on se dit, waouh. Et tout de suite, on se projette quand même, parce que là où certaines fois l'expérience passée d'une fausse couche peut freiner certaines personnes sur le fait de se projeter dans une nouvelle grossesse, nous on se dit comme la première on l'a pas vécu du tout parce que très vite il a fallu aller à l'hôpital etc faire un suivi et on n'a pas eu le temps de se projeter. Et ben là, on va se projeter tout de suite, essayer de voir les prénoms, comment on pourrait aménager la chambre, comment on va l'annoncer. Voilà.
Même l'annoncer assez rapidement, finalement, en se disant de toute façon, la fois précédente, les gens n'ont pas réalisé qu'il y avait une grossesse. Et là, ils vont réaliser, même quoi qu'il arrive, ils auront réalisé que la grossesse est bien là.
Ouais, ouais. Donc on veut tout faire tout de suite, quoi. Très vite, tout concrétiser.
On veut le vivre à 100%, quoi. On se dit on le vit à 100% et puis voilà en fait ça a été 9 mois de joie en fait on l'a vécu dans hyper bien je sais pas je te laisse enchaîner sur ton ressenti
enfin déjà on va voir cette gynéco là qui est super contente pour nous parce que du coup on a créé aussi des liens avec elle elle nous suit pas mal on s'envoie des mails on se tient en nouvelles etc et donc elle nous fait une écho de datation et là c'est là où je vois ce que c'est une grossesse évolutive, puisque donc je vois déjà du matériel qui a changé, où on voit bien tout ce qu'il faut, où il faut, même si c'est une écho de datation, c'est vraiment même pas un petit haricot, mais on voit des choses que moi je ne voyais pas lors de ma grossesse.
Et puis il y avait un battement.
Oui, déjà, on entend.
Déjà, un battement. Déjà, ouais.
Ouais. On est fin août à peu près là. Donc,
oui, on est fin août.
Donc c'est logique. Oui, c'est logique.
C'est un mois et demi.
Un mois et demi, ouais, à peine. Ouais.
Donc voilà, donc du coup, c'est là où. Ouais, là on réalise et on est à fond quoi. Vraiment.
Ouais.
Et je suis super contente.
Je crois que c'est ça qui c'est je pense que c'est peut-être ce moment-là qui est important et qui nous permet de concrétiser l'arrivée de la grossesse parce qu'on est retourné à Paris et puis on a entendu ce battement
qu'on n'avait jamais entendu la grossesse quelques années plus tôt, tout ça c'est pas arrivé quoi. On n'était pas bien entouré, on n'a même pas fait d'écho ensemble d'ailleurs.
Non.
Parce que c'était pas là quand j'étais aux urgences. Donc voilà, tout ça on le vit pleinement pour la première fois.
Avec une super gynéco qui effectivement je l'avais vue juste avant l'essai, je l'avais vue et elle m'avait dit ne vous inquiétez pas, ça va le faire et je lui ai dit vous m'avez porté chance.
C'est vrai.
De la première écho, je lui dis c'est vous qui m'avez porté chance parce que vous m'avez dit ça va le faire et ça l'a fait.
Voilà.
C'est important d'être entouré de personnes positives.
Ouais.
C'est vrai.
On va le raconter ensuite, mais tout au long de la grossesse, justement, on n'a eu que des gens positifs.
Oui, on a eu de la chance, c'est que tout le chemin de ces 9 mois et même après, on a, On a été entourés de personnes super bienveillantes, très positives, voilà, qui nous ont beaucoup entourés, rassurés. Et ça aide. C'est vrai que ça aide beaucoup.
Ouais, c'est clair. Et alors, donc, cette grossesse, elle se passe bien?
Bah, très bien. Elle se passe très bien, à part ce diabète gestationnel.
Oui, mais on n'y est pas, là. On est au premier mois, ça se passe bien.
Ouais, non.
Ça avance. Après, il y a une autre... Oui, non, mais oui, j'ai fait... À 6 mois, il faut faire le test de
diabète de glucose.
Ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis empiffré de sucreries pendant les 6 premiers mois.
En me disant, je n'ai aucune envie de grossesse. Mais moi, je n'ai aucune envie de grossesse avec des dragibus dans la bouche.
Tu sais, bizarre, moi, je n'ai pas envie. Bon, après, avec le recul, je me suis dit, mais quand même, je mangeais beaucoup de sucre. Donc, me voilà en diabète gestationnel. Et puis, je prends ça très au sérieux. Donc, ouais. Donc, test de glycémie 6 fois par jour. Je fais le régime drastique comme il se doit. Je fais pas d'écart. Et du coup, finalement, ça contrebalance le diabète et tout se passe bien.
Oui, tu t'arrives à le réguler.
Je le régule bien parce que je sais que derrière, ça peut influer sur le poids du bébé.
Et sur sa santé.
Donc, on rigole pas trop.
De toute façon, on est bien suivi aussi.
On a
le suivi à l'hôpital. Alors, pour le coup, ce qui est assez drôle, c'est que pour la méthode, on voulait quelque chose qui n'était pas médical, si possible, c'est-à-dire faire la méthode artisanale sans passer par une PMA en clinique. Autant pour la maternité, quelques années avant, on s'était dit oui, on prendrait une petite clinique nature, machin et tout. Mmh. Là, on choisit une des maternités les plus médicalisées de Paris, qui n'est pas à côté de chez nous.
Ah oui.
On veut se rassurer à fond. On choisit une maternité qui est spécialisée dans tout ce qui est grossesse gémellaire, grossesse de personnes à risque, etc. Mmh.
Ouais.
Alors que nous, il n'y a pas de risque, pas de souci. Mais on choisit cette maternité quand même. Donc voilà, ça, pour le coup, on était...
On était à fond. Bon, on savait pas trop comment choisir. On nous a dit, vite, il faut choisir
parce qu'à Paris, il y a
des listes d'attente, machin. Donc, on dit, on va choisir. Donc, en plus, on a un hôpital en face de la maison. Hein, l'hôpital Tenon, en face de chez nous. Mais on se dit, non, on va pas celui-là.
On va dans un plus médicalisé. Et puis, j'avais une amie qui avait accouché quelques mois avant. Ça s'était très bien passé. Donc, on fait le choix de la maternité. Et à côté de ça, on prend une sage-femme, en fait, libérale en ville. Comme on dit, pour le suivi, les cours de préparation à l'accouchement, le suivi mensuel.
Pour éviter justement les allers-retours à l'hôpital, on prend une dame qui est dans notre quartier et qui est super.
Ah oui, mais bah ouais.
Qui va tout de suite intégrer Maud au cours de préparation, parce que Maud a fait tous les cours avec moi.
Tous les rendez-vous, etc. Elle est hyper bienveillante. Mmh. Elle nous inclut tous les deux. C'est la première qui nous parle donc, du coup, on apprend le sexe de notre enfant, qui est un garçon. Et donc, c'est la première qui nous parle de notre fils. Alors, nous, on dit, oh là là. Quand elle dit, oui, votre fils et tout. Et là, oh mon Dieu, oui, c'est vrai, c'est notre fils, quoi. C'est pas un enfant comme ça. Notre enfant, c'est notre fils.
Ouais, c'est elle. C'est la première qui me pose ce mot-là. Et c'est vrai que ça nous a fait quelque chose, ouais. Ça a encore plus concrétisé, ce petit être qui était en train de grandir tranquillement. Mmh. Et ouais, on s'est senti hyper entouré.
C'était comme
une
bulle, la grossesse. Ouais. Franchement, on l'a vraiment très bien vécu. On a eu de la chance, c'est vrai. On l'a vraiment vécu bien entouré, même de nos familles, oui. Voilà, qui étaient super, nos deux familles super contentes pour nous, qui l'ont appris donc très tôt, comme on a dit. On l'a dit assez vite, genre en septembre, on l'a annoncé à tout le monde et puis, qui nous ont suivis un petit peu tout le long. Donc, c'était vraiment une belle, belle expérience.
Ah oui.
On a eu un
super souvenir, enfin, de toute la grossesse, vraiment de A à Z je le disais au tout départ, mais ça a été 9 mois de bonheur, quoi, clairement.
Ah, c'est chouette.
T'as pas eu trop de mots, en plus.
Non, pas trop de mots, un peu de nausée au départ, début. Pendant un mois, peut-être, mais.
Un petit mal de dos, enfin les mots classiques, oui. que t'as pris en charge avec
l'ostéo. En plus, oui, parce que j'ai eu mal au dos et j'ai vu une fois une super ostéo qui m'a débloqué tout de suite et donc vraiment tout a glissé parfait, quoi. C'est vraiment la grossesse rêvée.
Ouais, Solal est arrivé à terme.
Et Solal est arrivé
9 jours en avance, quoi.
Ouais, 9 jours avant le terme, donc bon. Alors. On raconte
Clem adore parler de l'accouchement, c'est son moment préféré. Alors il a de la chance parce qu'il a accouché et il adore en parler, donc c'est pas forcément le cas de tout le monde.
Parce que ça,
Non, mais l'accouchement, ça s'est très bien passé aussi.
Attends, tu vas beaucoup trop vite. De quoi ? 2h44, première contraction.
Oui, 2h44, première contraction, effectivement.
Alors là, on avait bien appris notre leçon.
Ne pas partir trop tôt, voilà, attendre que les contractions soient
faire fortes.
Faire du ballon,
tout ça.
Préparer le col.
Donc, Maud fait des pâtes.
Alors, je prépare des pâtes, oui.
Tu prends ta douche.
Ah oui, oui.
Moi aussi, d'ailleurs. Enfin, tranquille.
On se prépare. Et puis on part à la maternité le matin. Tu racontes vraiment tous les détails. Tu sais que c'était forcément très intéressant.
Mais on avait quand même prévu de se faire livrer à 9h des courses.
Les courses du mois que je n'arrivais pas à annuler. Donc du coup, je fais venir ma mère à Paris pour qu'elle vienne à l'appartement pour récupérer cette énorme commande qui est non annulable et non remboursable de courses mensuelles. Et nous, on part à la maternité.
À 7h30, on arrive à 8h à la mater. Et
tu passes la journée, ton col il est ouvert à 2, non ?
Non, il est à 3 quand on arrive.
Sauf qu'après ça.
Donc ils disent, bah oui, c'est bon, c'est pour aujourd'hui. Donc là, moi j'étais content.
Oui, c'était pas du faux travail, il fallait pas rentrer.
Ouais. J'avais peur qu'on me dise, bah non, rentrez chez vous, je sais pas pourquoi.
Parce qu'on n'était pas à côté, comme on l'a dit, donc du coup c'était pas très pratique de rentrer.
On avait pris le taxi et tout, ça m'aurait embêté de faire le retour, enfin bref. Et donc, oui, ils mettent tout de suite là, comment ça s'appelle ce truc qu'ils te mettent sur le ventre pour le monitoring. Bon, on est zen. J'ai juste une peur, je veux pas que Maud s'en aille.
Oui, enfin, c'est très pratique pour aller aux toilettes, prendre un petit verre d'eau, un café. Il faut pas que
non,
je parte.
Je voulais pas. Même elle allait dans le couloir, j'ai dit, tu reviens, tu restes pas loin. J'ai pas. Mais à ça, c'est à cause de Baby Boom. Parce que il y a un épisode où le gars il fume sa clope et on le retrouve pas.
Alors, et elle accouche évidemment, non ?
Et bah, il arrive pile poil, mais moi je voulais pas de ça.
Hein. J'étais là, il y a pas de souci.
Donc si moi je voulais la péridurale, donc tout de suite je préviens, je veux la péridurale. Et très tôt en fait ils mettent la péridurale. J'étais assez étonné, je pensais pas qu'ils allaient le faire si tôt. Ils mettent la péridurale. Tant mieux, je sens plus les contractions. Et donc, on me met en salle d'accouchement, on attend. Ça dure longtemps, quoi.
Bah, toute la journée, ça dure toute la journée. Parce que, la péridurale, elle ralentit le travail et donc l'ouverture du col. Donc,
ça commence à stagner.
Ça commence à être très long. Parce que, au final, on tout se passe, mais bon, c'est.
Ouais. Et puis, en fait, je suis en ouverture à 5, mais.
Je suis ouvert.
Je sais pas. Oui, c'est ouvert. C'est ouvert à 5 et ça stagne pas mal en fait. Et donc à un moment donné en fait elle a, alors je sais pas à combien, bon c'est pas très important,
elle a percé la poche
pour accélérer le travail parce que ça s'ouvrait plus. Mmh.
Et en fait là où on a eu peur, c'est qu'on avait une bonne sage-femme qui était super sympa, et comme elle est restée toute la journée avec nous, son service s'arrêtait et elle devait partir, et elle nous dit il va y avoir le roulement des sages-femmes, il va y en avoir une autre, mais vous allez voir, elle est super, etc. Vous inquiétez pas, parce que toujours pareil, nous, on a envie d'être entourés de personnes bienveillantes, qui ne m'excluent pas, qui sont... Enfin, voilà. Et donc, on a un peu peur, parce que ça se passait bien avec cette sage-femme-là, et elle s'en va, une autre sage-femme arrive, et en fait, elle est top, quoi. Elle arrive genre vers 20h, enfin, je sais plus
trop. Ouais, quelque chose comme ça.
Toi, t'as accouché vers 22h44. Et cette sage-femme arrive, et quand le travail se met en place, elle est là et elle est vraiment très très sympa. Et on a créé en très peu de temps une relation avec cette personne-là. C'est là où on voit que vraiment la puissance des soignants bienveillants et du relationnel, enfin, c'est hyper important. Cette sage-femme, on l'a retrouvée depuis sur les réseaux sociaux. Je sais pas, peut-être qu'elle nous écoutera. On a des parcours un peu similaires finalement. Et on se suit aujourd'hui sur nos réseaux sociaux respectifs. On se parle de temps en temps et elle a été là, super. Elle a été super. Et quand le travail s'est accéléré, elle m'a proposé de finaliser, on va dire, l'accouchement, de sortir Solal. Et du coup, j'ai accepté. Et quand il est arrivé, j'ai pu, elle a commencé à faire la sortie du petit, et c'est moi qui l'ai attrapé, qui l'ai mis au monde avec Clem et qui l'ai posé sur Clem. Donc tout ça, c'était assez dingue en fait. On s'est dit ça y est,
c'est concret, ça y est.
Concret, il est là. Enfin, même à ce moment-là, on réalise pas encore quoi. Enfin, franchement, Mais voilà, donc c'était jusqu'au bout, jusqu'à cet accouchement-là, enfin jusqu'à l'accouchement, c'était.
C'était parfait.
Même pour toi. Même pour moi, ouais.
Bon, ils ont dû me refaire la péridurale, mais.
Te refaire la péridurale qui avait un peu foiré, oui.
Ah oui, d'accord.
Oui, ouais. La péridurale. Elle s'est enlevée
30 minutes avant l'accouchement.
Et là, oh l'horreur.
Je dis, c'est pas normal, j'ai mal. Ils disent, bah oui, mais là, vous êtes à 9. Bah oui, mais moi, je veux pas accoucher sans péridurale.
Et tout réinstallé, mais c'est tout.
Je suis pas prêt.
Ouais, c'est ça. Et non, non, là, il va falloir faire quelque chose. Et ils ont fait une seconde péridurale.
Et
qui a fonctionné,
Tout de suite, quoi.
Ouais, heureusement. C'était un petit peu juste, mais ils l'ont fait, et ça a fonctionné.
Bon, voilà,
et Solal est arrivé
parmi nous le 10 avril.
Et petit Solal est arrivé. Et alors, c'était le plus beau bébé du monde.
Évidemment. Ah bah, évidemment.
Évidemment. Sauf quand on regarde
évidemment.
Les photos.
Bah, c'est vrai qu'avec du recul, c'est marrant parce que quand on le voit, on se dit, waouh, notre nouveau-né, il était tout beau, il était tout lisse, il est sorti tout frais.
Parfait, beau.
Et c'est, voilà, avec
non,
du recul, on
en
se
vrai,
dit.
Il
ah,
était
oui.
boursouflé.
Arrête.
Mais... Mais il était beau quand même.
Non, c'est vrai. C'était un nouveau-né sorti par voie basse. Donc, pas tout à fait comme on l'a vu sur le moment, mais il était magnifique. C'était notre bébé d'amour. Et puis, très vite, de toute façon, il s'est remis de ses boursouflures. Il ne
faut pas qu'il écoute ce podcast
non.
un jour.
Non, non.
Magnifique bébé.
Un tout petit bébé, en plus. On nous avait fait flipper avec le diabète gestationnel. Ouais. Oui, il risque d'être costaud. Quand on a fait l'estimation à la dernière écho, il nous avait dit... Oh, 3,5 kg, bon, ce qui est correct, hein. Mais en fait, il est né à 2,9 kg, 46 cm, donc petite crevette, quoi.
Ah oui, petit chou. petite crevette, ouais, c'est clair.
Bon, voilà.
Ok, excellent. Magnifique histoire, en tout cas. petit chou qui est arrivé.
Oui, oui.
Et alors, est-ce que vous êtes interrogé ou pas durant la grossesse sur... à quoi allait ressembler Solal, parce que je sais pas vous, mais moi, c'est déjà d'avoir un donneur. Pour le coup, nous, on ne savait rien.
Ouais.
On savait pas trop à quoi s'attendre, entre guillemets. Donc forcément, ça travaille un peu pendant la grossesse.
Ouais.
Est-ce que vous vous êtes interrogé sur le look qu'aurait Solal?
Un petit, moi, je sais qu'un petit peu, je crois qu'on regardait un petit peu quand même les bébés eurasiens, asiatiques, on les regardait un peu plus que les autres bébés, je pense.
Oui, c'est vrai, c'est possible.
Quand même pour se projeter, pour l'imaginer.
Mais c'est vrai qu'avec du recul, on se dit aussi, quand on regarde Solal, ah ben, il est vraiment comme on l'avait imaginé. Alors
oui,
que finalement, on ne sait pas vraiment si on l'avait imaginé, mais on le voit et on se dit, bah, franchement, il est comme on le visualisait. Quoi.
Ouais, c'est vrai.
Alors que bon, c'est...
Je ne pense pas que ça soit possible, mais c'est l'impression qu'on a.
Oui, en fait, c'est comme on a l'impression qu'ils ont toujours été là et qu'avant, il y avait...
Oui, enfin, voilà.
On se demande comment on vivait avant, hein.
C'est ça, c'est vrai. Non, mais après, sinon, je n'ai pas trop interrogé. Enfin, après, c'était des peurs. Je me souviens, toi, t'avais peur qu'il ait un bec de lièvre.
Ah ouais.
T'étais fixé là-dessus.
Je ne sais pas, mais depuis toujours, j'ai peur.
Ah oui, non, mais alors...
Mais enfin, en plus, c'est bon, voilà.
Toi aussi, ça t'a...
Mais pendant la grossesse, en fait, t'as des lubies. Mmh. Limite, t'as des tocs, en fait. Et tu réfléchis, t'as des trucs qui tournent en boucle et tu te dis, mais... C'est pas possible. Moi, c'était sur le prénom de ma fille.
Ah oui.
Ah oui.
Ah oui, j'étais fixée sur le fait que Juliette s'arrimait avec Riette.
Non, mais
tu sais, là.
Ah oui, c'est
Et je me disais, mais c'est
une jolie chose aussi, mais.
Mais exactement. Et du coup, je me disais, mais on peut pas l'appeler Juliette, c'est pas possible. Alors que c'était un prénom qu'on avait depuis des années, tu vois.
Oui, oui.
Bref.
Et est-ce que quelqu'un l'appelle Riette aujourd'hui, franchement?
Absolument pas.
Voilà.
C'est vrai, hein. Je pense que, mais je sais pas si c'est hormonal ou quelque chose, mais il y a des trucs, et ça, ouais, alors quand on a eu la troisième écho, du coup, on a vu le visage, à peu près, hein, avec, comme on peut voir un visage avec une écho, donc là, on savait.
Une écho, ouais.
Était, a priori.
Moi, je crois qu'elle l'a dit, hein, que normalement.
Oui, que c'était bon.
Elle a dit que ses lèvres, tout ça, c'était assez
bien
placé.
Non, là, ça m'a rassuré.
Ouais. Ah, oui. Non, on n'avait pas de. Voilà, on s'imaginait rien de particulier, en fait. On attendait de. Et on n'avait pas beaucoup d'enfants autour de nous, dans nos proches. Donc, en fait, on ne se projetait pas en regardant les enfants de nos amis, en se disant « Ah, est-ce qu'il va avoir les mêmes traits, les mêmes attitudes ?» On
n'avait
pas d'éléments de comparaison. Donc, en fait, on allait vraiment faire un coup.
Oui, oui, oui. C'est sûr que quand on a des
lettres en légèreté, quoi. C'était pas... Moi, c'est ce que je pense.
Bon, mais en tout cas, c'est une très jolie histoire et je suis ravie que vous l'ayez partagée avec nous autour de votre accès à la parentalité.
Merci à toi.
Et vraiment, j'invite C'est normal. Et j'invite nos auditeurs à aller découvrir votre compte et surtout à aller découvrir Solal parce qu'il est vraiment magnifique, ce bébé. Enfin, qui n'est plus un bébé, hein. Attention, il grandit.
Un petit peu quand même, franchement.
Un petit peu.
Il aura 3 ans et puis, dans 3 mois, oui.
Ouais, 3 ans. Ça passe, le temps passe.
Oui.
Et puis du coup, je pense qu'on va se retrouver pour un prochain épisode pour aborder la suite de l'aventure de Solal et puis surtout la transparentalité avec la transition de Clément.
Exactement. On se retrouve pour la suite de l'histoire.
La suite des aventures. À très bientôt, Maud et Clément.
Merci
bientôt,
beaucoup. Merci bonne beaucoup. Journée, Constance.
Bonne journée.
Vous l'aurez compris, nous allons nous retrouver très vite avec Maud et Clément, dès la semaine prochaine, car la composition de leur famille révèle une autre spécificité. Clément est un homme transgenre qui a porté son enfant. J'ai souhaité aborder avec eux la transparentalité, le chemin de Clément et de Maud, l'histoire expliquée à Solal et leur quotidien depuis cette révélation. Cette famille est un très beau témoignage d'amour et de confiance. Ils sont soudés et véhiculent une image extrêmement positive de nos familles extraordinaires. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager. C'est ce qui me donnera le plus de visibilité et qui donnera au podcast une vraie légitimité. Vous pouvez aussi noter le podcast sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcasts et Spotify, ou vous abonner. C'est ce qui va permettre de faire comprendre aux plateformes que le podcast a de la visibilité. Je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontbienpodcast, pour échanger sur cet épisode ou sur d'autres questions que vous pourriez vous poser. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode du fil rouge du podcast Les Enfants Vont Bien. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.